Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, la synthèse des yoga number one, le yoga des œuvres, traduit en français par Douce Mère. Alors, le chapitre 11, le maître de l'œuvre. Et même si leur travail et leurs effets sont de moindre portée et ne touchent qu'un champ limité, ils ont cependant le sentiment très vif qu'ils sont l'instrument élu de telles missions, de telles œuvres. Les hommes qui ont cette destinée ou ces pouvoirs croient facilement et déclarent qu'ils sont de simples instruments dans la main de Dieu et du destin. Mais dans leur déclaration même, nous pouvons voir se glisser ou prendre refuge un égoïsme plus intense et plus exagéré que celui que les hommes ordinaires ont le courage d'affirmer et la force d'abriter en eux, ou la force d'abriter en eux-mêmes. Et souvent, si les hommes de cette sorte parlent du divin, c'est pour en faire une idole qui n'est réellement rien d'autre que l'ombre colossale de leur propre moi ou de leur propre nature, une nourrissante essence dédiée de leur propre type de volonté, de pensée, de qualité et de force. Le maître qu'ils servent est l'image démesurée de leur propre ego. C'est ce qui arrive trop souvent dans le yoga chez eux qui ont une nature vitale puissante mais frustre, ou une mentalité qui trop facilement s'exalte et qui permet à l'ambition et à l'orgueil ou au désir des grandeurs de se mêler à leur recherche spirituelle et de vicier la pureté de leurs motifs. Un ego démesuré qui s'interpose entre eux et leur être véritable et se saisit à ses fins personnelles de la force venue d'un pouvoir invisible, plus grand divin ou non-divin qui agit à travers eux et dont ils deviennent vaguement et intensément conscients. Percevoir intellectuellement ou sentir vitalement une force plus grande que la nôtre et savoir que nous sommes nous-mêmes mus par elle ne suffit pas à nous délivrer de l'ego. L'élimination de cette forme d'ego conduit directement à l'action instrumentale véritable, qui est l'essence même d'un karma parfait. Car tant que nous chérissons l'ego instrumental, nous pouvons nous faire croire que nous sommes des instruments divins conscients. Mais en réalité, nous essayons de faire de la Shakti divine l'instrument de nos désirs et de nos desseins égoïstes. Et même si l'ego est soumis, mais sans être éliminé, nous pouvons certes être des moteurs de l'œuvre divine. Mais nous serons des outils imparfaits, nous ferons dévier l'action ou l'altérerons par nos erreurs mentales, nos déformations vitales et par les incapacités obstinées de notre nature physique. Si l'ego disparaît, nous pouvons non seulement devenir vraiment de purs instruments qui consentent consciemment à chaque mouvement de la main divine qui nous meut, mais connaître aussi notre vraie nature et être une parcelle consciente de l'un éternel et infini, émanée par la suprême Shakti en elle pour ses œuvres. Après la soumission de notre ego instrumental à la Shakti divine, un pas de plus important reste à faire. Ce n'est pas assez de savoir quelle est l'unique force cosmique qui nous meut, nous et toutes les créatures, sur les différents plans du mental, de la vie et de la matière, car c'est encore la nature inférieure et même si la connaissance, la lumière et la puissance divines sont là, cachées à l'œuvre dans l'ignorance, et si elles peuvent partiellement briser le voile et manifester un peu leur vrai caractère ou descendre des hauteurs et soulever ces opérations inférieures, même si nous avons l'expérience de l'un dans un mental spiritualisé, dans un mouvement vital spiritualisé, dans une conscience corporelle spiritualisée. Une imperfection reste encore dans les parties dynamiques de notre être. La réponse au pouvoir suprême est hésitante. Un voile couvre la face du divin. L'ignorance se mêle constamment à nos actes. C'est seulement quand nous nous ouvrons à la Shakti divine en sa vraie force qui transcende cette pakriti inférieure que nous pouvons devenir les instruments parfaits de son pouvoir et de sa connaissance. Le but du karma yoga ne doit pas être seulement la libération, mais la perfection aussi. C'est à travers notre nature et selon notre nature qu'œuvre le divin. Et si notre nature est imparfaite, l'œuvre aussi sera imparfaite, mélangée, inadéquate. Il se peut même qu'elle soit défigurée par des erreurs grossières, des faussetés, des faiblesses morales, des influences déviatrices. L'œuvre de la volonté divine s'accomplira en nous malgré tout, mais selon notre faiblesse et non selon la force et la pureté de sa source. Si notre yoga n'est pas intégral si nous cherchions seulement la libération du moi intérieur ou l'existence immobile du Purusha séparé de Prakriti, la perfection de notre être dynamique n'aurait peut-être pas d'importance. Calme, tranquille, sans dépression ni exaltation, refusant d'accepter comme nôtre la perfection ou l'imperfection, la faute ou le mérite, le vice ou la vertu, percevant que ce mélange tient au monde de la nature et qu'elle œuvre dans le cadre de ses modes. Nous pourrions nous retirer dans un silence de l'esprit, et pur et non touché, être de simples témoins des œuvres de Prakriti. Mais pour une réalisation intégrale, ce ne peut être qu'une étape sur le chemin, non le lieu de notre repos finale. Car ce n'est pas seulement dans l'immobilité de l'esprit que nous cherchons la réalisation divine, mais dans le mouvement de la nature aussi. Et ceci n'est entièrement possible que si nous sommes capables de sentir la présence et le pouvoir du divin à chaque pas, dans chaque mouvement, chaque forme de nos activités, chaque tendance de notre volonté, chaque pensée, chaque sentiment, chaque impulsion. Sans doute, en un sens, pouvons-nous éprouver cela au sein même de la nature de l'ignorance. Mais c'est une présence et un pouvoir divin déguisé, une diminution, une image inférieure. Nous voulons davantage. Nous voulons que notre nature entière soit un pouvoir du divin, dans la vérité du divin. Je répète, nous voulons que notre nature entière soit un pouvoir du divin, dans la vérité du divin, dans la lumière, dans la force de l'éternelle volonté, consciente d'elle-même, dans l'immensité de la connaissance perpétuelle. Après avoir supprimé le voile de l'ego, reste à supprimer le voile de la nature et de ses modes inférieurs qui gouvernent notre mental, notre vie et notre corps. Dès que ces limites de l'ego commencent à s'estomper, nous voyons comment constituer ce voile et nous découvrons l'action de la nature cosmique en nous. Et nous découvrons l'action de la nature cosmique en nous, en elle ou derrière elle. Nous sentons la présence du moi cosmique et le dynamisme de l'Ishwara qui remplit le monde. Derrière tout ce fonctionnement se tient le maître de l'instrument. Et même au milieu du fonctionnement, sa main est là et la poussée d'une grande influence qui guide ou dispose. Ce n'est plus l'ego, ni la force de l'ego que nous servons. Nous obéissons au maître du monde et à son impulsion divine. À chaque pas, nous disons, comme il est dit au verset sanskrit, tel « Je suis destiné par toi qui es assis dans mon cœur, tel j'agis, ô Seigneur et Maître de l'œuvre. » Mais reste que cette action peut être de deux sortes très différentes. L'une, illuminée seulement, l'autre transformée et soulevée jusqu'à cette supranature plus grande. Car nous pouvons continuer le chemin de l'action en restant soutenus et suivis par notre vieille nature telle qu'elle était quand par elle et son illusion égoïste nous tournions comme montés sur une machine. Mais maintenant, avec une compréhension parfaite du mécanisme et de son utilisation, nous sentons pour les desseins cosmiques du maître des œuvres que nous sentons derrière elle. En fait, la plupart des yogis, même les plus grands, ne sont pas allés plus loin sur les lenteurs du mental spiritualisé. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit toujours ainsi, car il existe une possibilité supramentale plus grande. Il est possible de s'élever au-delà du mental spiritualisé et d'agir spontanément en la présence vivante de la Mère suprême et de sa vérité force divine originelle. Quand notre mouvement sera uni à son mouvement et immergé en lui, notre volonté unie à sa volonté, notre énergie libérée en son énergie, nous sentirons son action à travers nous, comme l'action même du divin manifesté dans une sagesse puissante, suprême. Nous percevrons que le mental, la vie et le corps, alors transformés, sont seulement les canaux d'une suprême lumière-force qui les dépasse, infaillible dans sa marche, parce que transcendante et totale dans sa connaissance. Et non seulement, nous serons les réceptacles, les canaux et les instruments de cette lumière-force, mais nous ferons partie d'elle dans une haute expérience permanente et suprême. Avant d'atteindre cette ultime perfection, nous pouvons déjà nous unir au divin dans les œuvres, en toute l'étendue du divin, sinon sur ses sommets les plus lumineux. Car nous ne percevons plus seulement la nature ou les modes de la nature, mais nous devenons conscients dans nos mouvements physiques, dans nos réactions vitales et nerveuses, dans nos opérations mentales, d'une force plus grande que le corps. Le mental est la vie qui prend possession de nos instruments, limités et conduit tout leur mouvement. Nous n'avons plus la sensation que c'est nous qui bougeons, nous qui pensons ou sentons, mais que c'est elle qui bouge, elle qui sent et qui pense en nous. Cette force que nous sentons est la force universelle du divin, et voilée ou dévoilée, agissant directement ou permettant que ses pouvoirs soient utilisés par les êtres dans le cosmos. Elle est l'unique énergie qui seule existe et seule rend possible toute action, universelle ou individuelle. Car cette force est le divin lui-même en son corps de pouvoir. Car cette force est le divin lui-même en son corps de pouvoir. Tout est ce pouvoir. Pouvoir d'action, pouvoir de pensée, pouvoir de connaissance, pouvoir de maîtrise et de jouissance, pouvoir d'amour. Conscient toujours et en toutes choses, en nous-mêmes et dans les autres, que c'est le maître des œuvres qui possède et habite cette force qui est lui-même, qui jouit des choses à travers elle, qui devient par elle toute existence. Et qui devient par elle, qui devient par elle toute existence et tous les événements. Nous serons arrivés à l'union divine par les œuvres, et par cette réalisation dans les œuvres, nous aurons gagné tout ce que les autres ont pu gagner par la dévotion absolue ou par la connaissance pure. Mais il existe un autre degré encore qui nous appelle, une ascension qui nous fait sortir de cette identité cosmique et entrer en l'identité de la transcendance divine. Le maître de nos œuvres et de notre être, en effet, n'est pas seulement une divinité ici-bas au-dedans de nous, il n'est pas non plus seulement un esprit cosmique ni quelque pouvoir universel. Le monde et le divin ne sont pas une seule et même chose, comme certaines sortes de panthéisme aimeraient le faire croire. Le monde est une émanation. Il dépend de quelque chose qui se manifeste en lui, mais qui n'est pas limité par lui. Le divin n'est pas ici seulement, il y a au-delà, un au-delà, une transcendance éternelle. L'individu non plus, de par son élément spirituel, n'est pas une forme de l'existence cosmique, comme le sont notre ego, notre mental et notre vie. L'esprit immuable, l'âme impérissable en nous, est sorti de la transcendance. Un transcendant qui est par-delà tous les mondes et toute nature, et qui cependant possède le monde et sa nature, qui est descendu en elle avec quelques parties de lui-même et la façonne pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas encore. Telle est la source de notre être, la source de nos œuvres et leur maître. Alors je me permets de finir sur ce paragraphe que je vais vous relire, qui est fabuleux. Un transcendant qui est par-delà tous les mondes et toute nature, et qui cependant possède le monde et sa nature. Possède le monde et sa nature, qui est descendu avec elle, avec quelques parties de lui-même, et la façonne pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas encore. Telle est la source de notre être, la source de nos œuvres et leur maître. Sri Aurobindo, chapitre 11, le maître de l'œuvre, synthèse des yogas, le yoga des œuvres. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette merveilleuse lecture du maître de l'œuvre. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère. Ganga Lakshmi.